Alors, je vais aborder une question qui n'est pas sans lien avec la question scolaire, même si elle est assez différente, puisque j'aborde l'enfant du point de vue du corps de l'enfant et ce que j'appelle la rénovation de la biopolitique. Donc, ça implique peut-être un petit détour historique, puisque je parle de rénovation. Et puis, j'emploie ce terme de biopolitique qui, comme vous le savez, est emprunté à Michel Foucault. Donc, je vais peut-être commencer par rappeler comment Foucault l'a défini. Donc, je le cite dans Dit et écrit, « Manière dont on a essayé depuis le XVIIIe siècle de rationaliser les problèmes posés à la pratique gouvernementale par les phénomènes propres à un ensemble de vivants constitués en population. Santé, hygiène, natalité, longévité, race, point de suspension. » Donc effectivement, on voit que si les techniques de la discipline ont plus particulièrement contribué au développement de ce qu'il a pu appeler une anatomopolitique, ça va être les nouveaux savoirs de la médecine moderne qui se met en place à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe qui vont permettre véritablement le développement de cette biopolitique. Puisque c'est cette nouvelle médecine qui va autoriser en quelque sorte la généralisation de l'hygiène publique comme objectif politique. Et comme le dit Foucault, la vie entre dans le domaine du pouvoir à ce moment-là. C'est une mutation capitale, ajoute-t-il, l'une des plus importantes sans doute dans l'histoire des sociétés humaines. Alors en quoi le corps de l'enfant est justement la cible de la promotion sociale de la santé publique ? C'est vrai que la médecine, c'est une discipline essentiellement individualisante hein, dans le rapport médecin-malade, mais dans cette perspective-là, elle va progressivement pouvoir se placer dans une perspective collective jusqu'à permettre la mise en place, vers la fin du XIXe siècle, d'une véritable problématique de santé publique. Et dans cette problématique de santé publique, c'est vrai que le corps de l'enfant prend une importance centrale. C'est lui qu'il va s'agir de produire, et du mieux possible, mais aussi de préserver, au travers des mesures natalistes, hygiénistes, qui vont jalonner le XIXe siècle et ensuite le XXe siècle, depuis la promotion de l'allaitement maternel dès le début du XIXe, pour lutter contre la surmortalité infantile qui est liée au placement en nourrice, jusqu'à la création de la PMI au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc Foucault va synthétiser ces deux mouvements sous le nom de biopouvoir, hein, l'anatomopolitique et la la biopolitique. Mais, chose caractéristique, il se développe aussi, et d'une certaine façon, la médecine va servir de modèle pour d'autres corps de savoir qui sont les sciences humaines. Et ces sciences humaines vont contrecarrer, d'une certaine façon, l'objectif médical. Parce que le développement des sciences humaines, dès le début du XXe siècle, elle va permettre de penser le phénomène d'intériorisation des règles et des normes de la vie sociale comme étant une incorporation. Et l'idée d'incorporation, me semble-t-il, là, elle est forte, c'est-à-dire une inscription dans le corps de l'ordre social. L'idée a été ébauchée du côté socio-anthropologique par Durkheim, elle a été développée par Mauss hein, et puis par Bourdieu, mais elle était présente aussi dans les disciplines psychologiques, que ce soit de la psychologie du développement ou bien du behaviorisme. Je dirais que peut-être l'apport le plus fondamental, ça va être celui de Freud. Pourquoi ? Parce qu'il met en place les principes de compréhension de ce que maintenant on appellerait une psychosomatique. Puisqu'il va mettre en évidence les liens aussi forts que complexes entre la vie psychique et son expression dans les symptômes corporels. Le corps prend effectivement, de ce point de vue, une grande importance. Or, en fait, ce que partagent ces analyses qui sont venues, bien sûr, d'horizons divers, qui sont souvent concurrents, c'est le fait qu'en s'incorporant, les processus de socialisation en deviennent inconscients. Et que donc que la période de la petite enfance constitue le socle de cette incorporation, même si bien sûr l'incorporation elle peut se poursuivre tout au long de la vie. Donc en fait le système social il va mettre un certain temps quand même à intégrer ces connaissances, mais c'est intéressant de voir que ça va dépasser largement la sphère de la clinique et notamment le monde marchand va intégrer ses connaissances avec la publicité qui s'ouvre à la problématique de ce qu'un auteur a appelé la persuasion clandestine, qui utilise en fait les apports des sciences humaines pour promouvoir son discours, et aussi par l'action sociale. La référence psychanalytique va devenir progressivement prépondérante dans le deuxième tiers du XXe siècle, dans l'action sociale. Et donc on pourra assister à ce que certains ont pu, ce qu'on pourrait appeler un psychopouvoir à ce moment-là. Un auteur comme Robert Castel va d'ailleurs le dénoncer sous le terme de psychanalysme au début des années 70. Donc effectivement, on peut dire que le rapport de la psychanalyse au pouvoir, ça demeure largement un impensé. Parce qu'elle s'est d'une part développée sur le modèle du rapport médical entre un individu appelé patient et un praticien, mais aussi parce qu'elle se prête assez peu à une utilisation élargie par la politique, pour de multiples raisons. D'abord, peut-être du fait de du refus de la plupart de ses représentants à devenir conseiller du prince, mais aussi parce que sa tendance à l'hyper-sophistication conceptuelle, en quelque sorte, illustrée par la coexistence de multiples courants en son sein, gêne cette utilisation par le politique. Mais en fait, il me semble qu'à cette époque, dans les années 70, on n'avait pas encore conscience que le véritable danger du détournement des savoirs scientifiques à des fins politiques, et notamment des fins indexées au modèle économique néolibéral, viendrait de, je dirais, la rebiologisation de la clinique psychique. Et cette rebiologisation de la clinique psychique, elle est bien sûr liée aux extraordinaires progrès des neurosciences, de la biologie cellulaire et de la biologie génétique. Ce mouvement va être initié, je crois, dès la découverte de la chlorpromazine, le premier des antidépresseurs dans les années 50, qui va donner lieu à un véritable renversement de l'orientation thérapeutique. Ça va se traduire, qui vient bien sûr des États-Unis, par la révision du manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, le fameux DSM, dès les années 80, et la promotion donc d'une thérapeutique en santé mentale qui va s'intéresser beaucoup moins à la genèse des troubles, comme le faisait l'approche psychanalytique, qu'à la prise en charge des symptômes, et notamment à la prise en charge médicamenteuse des symptômes. Et donc cette prise en charge qui s'effectue sous l'impulsion du modèle américain articule de façon nouvelle certaines branches de la psychologie, celles qui sont en quelque sorte les plus indexées au biologique, c'est-à-dire la psychologie génétique et comportementaliste, et la pharmacologie. La pharmacologie qui trouve bien sûr dans l'industrie pharmaceutique un formidable support pour une expansion qui devient très importante. Donc, on voit se resserrer les liens qui s'étaient considérablement distendus jusque-là entre la médecine, qui tend à retrouver sa position hégémonique, et la gestion sociale, marquant ainsi, effectivement, d'une certaine façon, le retour à une biopolitique. Donc je vais développer un peu cette question. Et je crois que cette connivence, justement, qui se renouvelle entre le pouvoir politique et le pouvoir médical, elle n'aurait pas été appréhendée avec autant de clarté si justement le retour au pouvoir d'un gouvernement favorable au libéralisme économique n'avait permis que soient explicités ces liens étroits entre le pouvoir politique et la régulation des corps, par le biais d'ailleurs de ce qui est présenté comme étant bien sûr un progrès scientifique. Je crois que c'est sans doute la liaison maladroite qui est effectuée fin 2005 par un ministre de l'Intérieur entre la prévention de la délinquance et le premier âge de l'enfance qui va mettre en quelque sorte le feu aux poudres, qui va montrer aux yeux de tous en quelque sorte que le roi était nu. Ce ministre de l'Intérieur, qui eut par la suite d'autres occasions de se rendre célèbre, vous le savez, exprima la volonté d'utiliser une des conclusions de l'expertise INSERM 2005, troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent, dans son projet de loi sur la prévention de la délinquance, en accréditant l'idée d'une possibilité de prédire dès l'âge de 3 ans un futur comportement délinquant. Et donc, dans la foulée, en proposant d'y remédier par des mesures plus ou moins coercitives à l'égard de ces enfants en souffrance et aussi de leur famille. Effectivement, il y a eu une levée de boucliers extraordinaire face à un tel projet. Et le succès de la pétition Internet « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans » montre l'importance de ce mouvement. Donc, face à ce mouvement, ce ministre retire la référence à la petite enfance du texte de loi en préparation, mais l'a réintroduit d'une forme édulcorée dans la réforme aussi en préparation de la protection de l'enfance, donc qui sera votée en 2007. Donc ça atteste bien, effectivement, des rapports étroits entre développement scientifique et gestion politique. Alors, bénéfice secondaire, je dirais, l'un des effets du mouvement de protestation qui est étayé par cette pétition, ça a été de clarifier pour un certain nombre de professionnels, et notamment de professionnels du champ sanitaire, les distinctions parfois mal établies entre différents types d'interventions préventives en ce qui concerne la petite enfance. Et donc ça a justifié a posteriori la méfiance rencontrée chez de nombreux professionnels face à certaines mises en œuvre d'une prévention précoce, donc des troubles psychiques, parce que justement elle avait une fonction prédictive. Ce type de prévention qui est préconisé par le rapport INSERM, que je ne développe pas ici, on n'a pas le temps, elle est effectivement une prévention qui se veut adaptative. Adaptation de l'enfant à ses troubles et aussi à son environnement. Et elle a, comme je l'ai dit, une fonction prédictive. Elle est, je crois, clairement à différencier d'une autre prévention que mettent en jeu un certain nombre de praticiens de la clinique relationnelle. Cette clinique donc, qui est beaucoup plus centrée sur l'expression et sur la verbalisation des difficultés relationnelles, qui sont, rappelons-le, le plus souvent à l'origine des symptômes enfantins. Donc cette prévention-là, je la qualifierais plutôt d'expressive. Elle se veut non pas prédictive, mais plutôt prévenante à l'égard des troubles de la relation parent-enfant et des liens qui sont en jeu. Et elle s'appuie sur la mise en parole des difficultés de la relation et aussi sur la mise en réseau des différents types d'intervenants possibles dans le champ de la périnatalité. Et on est effectivement dans un autre type de conception qui fait qu'aujourd'hui, il continue à s'opposer dans le champ de la clinique des représentants de ces deux tendances qui sont un peu antinomiques. Donc l'espace du soin et aussi celui de l'éducation se retrouve aujourd'hui traversé par cette tension entre ces deux conceptions antinomiques, non seulement au niveau des pratiques mises en œuvre, mais peut-être surtout à ce que ça représente quant à l'idée que l'on se fait du développement de l'enfant. En parallèle, ce qu'ont dénoncé avec vigueur les signataires de la pétition Pas de zéro de conduite et la connivence de cette conception, donc qu'on peut qualifier de béhavioriste du développement, qui peut prédire une délinquance future, et d'une prévention donc qui doit adapter l'enfant à ses troubles, que ce soit sous la forme d'un reconditionnement ou bien par l'utilisation de médicaments, comme par exemple la Ritaline, bien connue. Conjonction de cette représentation avec l'idéologie sécuritaire préconisant le signalement, on l'a dit, dès le plus jeune âge, des comportements considérés comme agressifs et visant donc leur contrôle précoce. Et ce, je dirais, au détriment d'une véritable approche éducative. Alors, remarquons que le fer de lance de cette volonté politique de contrôle sécuritaire, il réside sans doute dans la promotion de cette procédure de signalement en référentiel, non seulement de la protection de l'enfance, mais enfin plus ou moins de toutes les interventions considérées jusqu'alors comme éducatives. On est bien là dans un changement de référentiel, en tout cas dans une accentuation très forte vers un autre type de référentiel, dès l'école maternelle avec le livret d'évaluation, la PMI avec le carnet de santé, les structures de soins psychiques, je l'ai dit, avec le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, le fameux DSM-4. Donc la question du signalement devient centrale dans l'identification des situations considérées comme à risque et donc vient pervertir en quelque sorte aussi bien la logique éducative que la logique sanitaire. Et justement, le problème que ça pose, cette montée du signalement, c'est que ça remet gravement en cause les pratiques de l'action sociale, puisque les pratiques de l'action sociale, elles sont fondées sur la mise en confiance des individus auxquels elles s'adressent, pour lesquels l'expression de leurs difficultés reste liée à la garantie d'anonymat qui est apportée par le secret professionnel. Et donc, effectivement, le partage du secret professionnel, on voit à quel point ça remet en question la logique traditionnelle de l'action sociale. Donc, face à ce constat d'une dérive qui touche l'ensemble du domaine du soin, de l'éducatif et du social, en essayant d'articuler en quelque sorte le modèle managérial qui est issu de l'économie libérale, qui vise au contrôle des coûts, à ce modèle biopsychologique du développement de l'enfant lié au redéploiement de l'arsenal thérapeutique. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une dérive qui est en train de se passer. Donc je peux essayer d'identifier ce qui a permis cette régression moderniste. C'est un peu paradoxal d'employer ce terme, mais je crois qu'on est effectivement dans une logique de régression à un mode de représentation antérieur de l'humain qui est dénié par les connaissances, un certain nombre de connaissances aujourd'hui sur les fonctionnements psychiques et sociaux. Et en même temps, ce qui permet cette régression, c'est les sciences qui apparaissent à la pointe du progrès, comme par exemple les neurosciences. Donc régression à une vision biologisée de l'enfant qui est apte à séduire le politique. Donc je passe sur la première étape de la remédicalisation du corps enfantin, notamment toute la question de la première phase en fait qu'a pu apporter les techniques de procréation modernes, en parlant directement de la biologisation de la filiation. Replaçons-nous dans le contexte des années 70. L'explosion des divorces est permise par la loi de 1975 qui a introduit le divorce par consentement mutuel. Puis, dès 82, développement des pratiques d'aide médicale à la procréation après la naissance du premier, ce qu'on appelait le premier bébé éprouvette en France, Amandine. Je sais, pour ceux qui sont suffisamment anciens, ils s'en rappelleront peut-être. Donc, cela va rendre cette question de la filiation de plus en plus brûlante. D'ailleurs, la création dans la foulée du Comité national d'éthique est bien là pour en témoigner. La possibilité de l'introduction d'un tiers donneur de gamètes dans le processus de procréation relance effectivement les débats sur la filiation, d'autant plus qu'il devient possible de prouver une chose qui était considérée jusqu'alors comme incertaine, selon l'expression consacrée, c'est-à-dire la filiation biologique paternelle. Donc s'exacerbe à ce moment-là l'opposition entre ceux qui pensent que la filiation est d'abord biologique et que la société ne fait qu'entériner celle-ci, et ceux qui affirment la prépondérance de la dimension psychosociale pour caractériser la filiation. On est dans une époque où s'ouvre l'ère de ce que Irène Théry appellera le démariage. La médecine vient ainsi à cette époque remettre en cause le principe de présomption de paternité du mari, en offrant la possibilité de vérifier l'origine biologique directement. Donc le corps de l'enfant, on le voit, est devenu objet de controverse, avant même sa naissance. Et donc le politique doit légiférer pour déterminer quelles sont les situations considérées comme légitimes. La biopolitique se met désormais en place avant même la conception. Donc c'est intéressant de voir ces retournements, et se retrouve devoir gérer des situations érigées en question sociale. Par exemple, le droit à la connaissance de ses origines. C'est une des questions particulièrement présentes aujourd'hui, mais aussi l'accouchement sous X, le déni du géniteur dans l'accouchement sous X. L'accouchement sous X, c'est la mère, mais le géniteur, il est complètement barré dans cette procédure. L'homoparentalité qui suppose la double dissociation entre sexualité, procréation et parentalité et conjugalité. Donc, et ça amène toutes ces difficultés, tous ces problèmes sociaux, jusqu'à reporter indéfiniment la révision de la loi dite de bioéthique, dont vous savez qu'elle a été encore repoussée au calende grec. Deuxième et dernière dimension, la médicalisation du psychologique. On l'a vu, ce renouveau d'une biopolitique ne s'arrête pas là. Il porte sur le devenir de l'enfant, bien sûr, après sa naissance, avec une rebiologisation des conceptions du développement que portent les connaissances, les progrès des connaissances en matière de psychologie comportementale, mais aussi de génétique et tout ce qu'on entend par les neurosciences. Alors bien sûr, la théorie du criminel né de Lombroso, qui est symbolique de la psychiatrie du 19e siècle, n'est pas réactivée. Mais ce qui a motivé la violence des réactions aux prétentions de certains représentants de ce courant à devenir hégémonique, c'est pas seulement la publicité que lui a fait le politique, mais c'est aussi justement la volonté hégémonique qui l'anime. Pour preuve, les rapports INSERM, celui de 2005 dont j'ai parlé, mais aussi celui moins connu de 2002 sur les troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, n'abordent la question que sous cet angle-là, évacuant toutes les autres approches. Plus fondamental encore, la remédicalisation de la psychiatrie quasi achevée en France. la disparition progressive des formations cliniques dans les facultés de psychologie, qui rappelle que ce mouvement de biologisation du psychique a investi les politiques publiques de formation dès les années 1980, sans que la mesure du danger, je crois, ait été véritablement prise, et notamment par les psychologues cliniciens. En fait, si la pédopsychiatrie constitue peut-être le secteur qui résiste le plus à cette évolution, c'est que le caractère relationnel des troubles psychiques chez le jeune enfant peut difficilement être nié, tout autant que l'efficacité des thérapies psychodynamiques est centrée sur la verbalisation des troubles. Alors, avec les années 2000, ce mouvement de biologisation du psycho-relationnel et de l'éducatif a trouvé les conditions politiques en France pour la mise en place d'une biopolitique qui s'appuie sur la prise en charge du corps de l'enfant en l'articulant notamment avec la volonté d'application du modèle managérial avec l'ensemble du secteur social, éducatif et sanitaire. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion ? Je dépasse d'une minute. La promotion d'une politique sécuritaire va ainsi entrer en phase avec les conceptions biocomportementalistes pour présider à une réorientation non seulement du sanitaire, mais aussi de l'éducatif et du social. Une conception peut-être essentiellement répressive de la prévention de la délinquance. Des mesures de soutien à la parentalité, on les a évoquées, qui virent au contrôle parental. Bon, on a pu parler des stages de responsabilité parentale et de la menace de suppression des allocations familiales, j'y reviens pas. La création d'établissements pénitentiaires pour mineurs, dont la volonté éducative affichée est sous-tendue par une conception complètement dépassée de la socialisation et du développement de l'enfant. Laurent Solini aura l'occasion de l'évoquer demain. Donc tout un ensemble de mesures et d'innovations qui viennent témoigner de ce renouveau d'une biopolitique qui vise en France. Donc sans pour autant que l'on puisse penser que la faillite à terme prévisible de ces dispositifs incertains nous dédouane de montrer effectivement que leur logique de mise en place est en passe de produire des effets qui vont accentuer les problèmes auxquels ils sont censés eux-mêmes répondre. Et c'est justement ce qui me semble le plus critiquable dans cette démarche, c'est qu'elle a abouti à accentuer les problèmes auxquels elle est censée répondre en contribuant à la diffusion de la logique néolibérale dans tous les secteurs de la vie sociale et plus particulièrement, en plus, parmi les populations précarisées. Donc effectivement, je suis tout à fait dans la logique de ce qui est dit aujourd'hui en incitant et en rappelant qu'il est absolument nécessaire de faire obstacle à tous les niveaux à cette logique de développement social néolibéral qui investit tous les domaines et notamment les domaines qui jusque-là en étaient plus ou moins préservés. Je vous remercie.